et subitement. La cage était jonchée de croquettes écrasées. Eduardo criait, mais il était à l'intérieur. La tante ne m'a pas reconnue. Elle était assise à côté de son déambulateur, avec un bavoir autour du cou, dans un réfectoire annexe, sans fenêtre, seule devant une assiette de poisson et de pommes de terre écrasées. Je ne m'attendais pas à la trouver à table à 18h. Il me faut un grand effort pour surmonter cet horaire terrifiant. Pour moi, c'est une façon de se débarrasser des gens. On ne peut faire dîner à cette heure-là que des gens vulnérables qu'on voudrait fourguer au lit. À l'hosto, on s'y trouve déjà. Je me suis présentée, j'ai dit que j'étais venue déjà avec Jean Lino. Elle m'a regardée avec application. Il y a une certaine autorité glaçante dans le regard des vieux, parfois. Elle s'appelait Benilde. J'avais su son nom à la réception. Benilde Poggio. Mais je n'osais pas le prononcer. À l'accueil, on m'a dit « Ah, la dame des Dolomites !» Je connais les Dolomites à travers Dino Buzzati. Denner lisait « Montagne de verre ». Des portraits d'alpinistes, des pleurs sur l'endommagement de la nature, sur les pentes où il n'irait plus. C'était pour ainsi dire son livre de chevet. Il m'en lisait des chapitres à haute voix. Certains étaient des chefs-d'œuvre. Je me suis rappelé un texte écrit au moment de la conquête de l'Everest. Dans le vieux château fort, en haut de la plus haute tour, il restait encore une petite salle où personne n'avait jamais pénétré. On a fini par ouvrir la porte. L'homme est entré et il a vu. Il n'y a plus aucun mystère. La dame des Dolomites a de longues mains épaisses et un peu calleuses. Les doigts bougent ensemble comme s'ils étaient collés. Avec sa fourchette, elle décortiquait le poisson qui était déjà décortiqué. J'ai demandé si je la dérangeais. J'ai dit « Vous voulez peut-être dîner tranquillement ?» Elle a fait un tapis avec les pommes de terre qu'elle a portées à sa bouche. Il m'a semblé que sa tête était moins agitée que la dernière fois. Elle mâchait en m'observant. Il lui arrivait de porter le bavoir à ses lèvres. Je me suis dit que le coiffeur avait forcé sur le mauve et sur la frisure. Il devait avoir un coiffeur dans l'hospice. Je ne comprenais plus ce que je faisais là. À quoi rime ce délire de bienfaisance qui consiste à visiter une femme inconnue qui ne sait même pas qui vous êtes? Elle portait un long chandail avec des poches. Elle a tripatouillé dans l'une d'elles et en a sorti un petit sachet de plastique fermé d'une cordelette qu'elle m'a tendue. Dans une langue inconnue, elle m'a dit de le sentir. Ça sentait le cumin. « C'est du cumin ?» j'ai dit. « Si, cumino. » Elle voulait que je sente encore. J'ai dit que j'aimais beaucoup le cumin, et aussi la coriandre. Elle a voulu que j'ouvre le sachet. Le nœud était assez serré et elle ne pouvait pas y arriver avec ses doigts ankylosés. Quand je l'ai ouvert, elle m'a fait signe de verser un peu de cumin dans le creux de sa main. Par tremblement, elle indiquait qu'il n'en fallait qu'une pincée. Elle m'a encore fait sentir les graines dans sa main, et elle les a versées en riant sur le poisson. J'ai ri aussi. Elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris complètement. Mais j'ai saisi au passage le prénom de Lydie. Et j'ai cru comprendre que c'était Lydie qui avait offert ce sachet. Je n'avais jamais fait le rapport entre la tante et Lydie. Quelle stupidité! C'était la femme de Jean Lino. Comment n'aurait-elle pas connu la tante? Elle a mis devant moi, avec la cuillère, le yaourt au citron qui était préparé sur le plateau. On entendait des bruits de voix dans le corridor, des bruits de portes, d'éléments roulants. Sans qu'on puisse dire pourquoi, c'était des sons du soir. Des sons clos, qui n'allaient rebondir nulle part. Je pensais à la visite que nous avions faite avec Jean Lino. Quand elle avait parlé de ces poules qui rentraient, et se mettait partout dans sa maison. Cette fois-ci, la tante ne parlait pas des poules, ni des cloches. Elle avait pris le pli d'autres habitudes, loin de la vie des montagnes, à mille lieues des grandes ombres qui enflent et se recroquevillent.